Chapitre 32. Mais permettez-moi de vous le demander, messieurs, vous amusez-vous autant qu'autrefois au bal et à la comédie? Pour moi, je vous l'avoue, depuis quelque temps, toutes les assemblées nombreuses m'inspirent une certaine terreur. J'y suis assailli par un songe sinistre. En vain, je fais mes efforts pour le chasser. Il revient toujours, comme celui d'Athalie. C'est peut-être parce que l'âme, inondée aujourd'hui d'idées noires et de tableaux déchirants, trouve partout des sujets de tristesse, comme un estomac vicié convertit en poison les aliments les plus sains. Quoi qu'il en soit, voici mon songe. Lorsque je suis dans une de ces fêtes, au milieu de cette foule d'hommes aimables et caressants qui dansent, qui chante, qui pleure aux tragédies, qui n'exprime que la joie, la franchise et la cordialité, et je me dis, si dans cette assemblée polie, il entrait tout à coup un ours blanc, un philosophe, un tigre ou quelque autre animal de cette espèce, et que montant à l'orchestre, il s'écria d'une voix forcenée, « Malheureux humains, écoutez la vérité qui vous parle par ma bouche. Vous êtes opprimés, tyrannisés, vous êtes malheureux, vous vous ennuyez, sortez de cette léthargie. Vous, musiciens, commencez par briser ces instruments sur vos têtes, que chacun s'arme d'un poignard, ne pensez plus désormais au délassement et aux fêtes. Montez aux loges, égorgez tout le monde, que les femmes trempent aussi leurs mains timides dans le sang. Sortez, vous êtes libres, arrachez votre roi de son trône et votre dieu de son sanctuaire. » Eh bien, ce que le tigre a dit, combien de ces hommes charmants l'exécuteront? Combien, peut-être, y pensaient avant qu'il entrât? Qui le sait? Est-ce qu'on ne dansait pas à Paris il y a 5 ans? Johnetti, fermez les portes et les fenêtres. Je ne veux plus voir la lumière. Et qu'aucun homme n'entre dans ma chambre. Mettez mon sabre à la portée de ma main. Allez, sortez vous-même et ne reparaissez plus devant moi. Chapitre 33. Non, non, reste, Johanetti, reste, pauvre garçon. Et toi aussi, ma Rosine, toi qui devines mes peines et qui les adoucis par tes caresses. Viens, ma Rosine, viens. V, consonne et séjour. Chapitre 34. La chute de ma chaise de poste a rendu le service au lecteur de raccourcir mon voyage d'une bonne douzaine de chapitres, parce qu'en me relevant, je me trouvais vis-à-vis et tout près de mon bureau, et que je ne fus plus à temps de faire des réflexions sur le nombre d'estampes et de tableaux que j'avais encore à parcourir et qui auraient pu allonger mes excursions sur la peinture. Et donc, en laissant sur la droite les portraits de Raphaël et de sa maîtresse, le chevalier d'Assas et la bergère des Alpes, et longeant sur la gauche, du côté de la fenêtre, on découvre mon bureau. C'est le premier objet et le plus apparent qui se présente au regard du voyageur en suivant la route que je viens d'indiquer. Il est surmonté de quelques tablettes servant de bibliothèque. Le tout est couronné par un buste qui termine la pyramide, et c'est l'objet qui contribue le plus à l'embellissement du pays. En tirant le premier tiroir à droite, on trouve une écritoire, du papier de toute espèce, des plumes toutes taillées, de la cire à cacheter. Tout cela donnerait envie d'écrire à l'être le plus indolent. Je suis sûr, ma chère Jenny, que si tu venais à ouvrir ce tiroir par hasard, tu répondrais à la lettre que je t'écrivais l'an passé. Dans le tiroir correspondant, gisent confusément entassés les matériaux de l'histoire intéressante de la prisonnière de Pignerolles, que vous lirez bientôt, mes chers amis. Entre ces deux tiroirs est un enfoncement où je jette les lettres à mesure que je les reçois. On trouve là toutes celles que j'ai reçues depuis 10 ans. Les plus anciennes sont rangées selon leur date en plusieurs paquets. Les nouvelles sont pêle-mêle, il m'en reste plusieurs qui datent de ma première jeunesse. Quel plaisir de revoir dans ces lettres les situations intéressantes de nos jeunes années, d'être transportés de nouveau dans ces temps heureux que nous ne reverrons plus. Ah, mon cœur est plein. Comme il jouit tristement lorsque mes yeux parcourent les lignes tracées par un être qui n'existe plus. Voilà ses caractères, c'est son cœur qui conduisait sa main, c'est à moi qu'il écrivait cette lettre, et cette lettre est tout ce qui me reste de lui. Lorsque je porte la main dans ce réduit, il est rare que je m'en tire de toute la journée. C'est ainsi que le voyageur traverse rapidement quelques provinces d'Italie, en faisant à la hâte quelques observations superficielles, pour se fixer à Rome pendant des mois entiers. C'est la veine la plus riche de la mine que j'exploite. Quel changement dans mes idées et dans mes sentiments! Quelle différence entre mes amis! Lorsque je les examine alors et aujourd'hui, je les vois mortellement agités par des projets qui ne les touchent plus maintenant. Nous regardions comme un grand malheur un événement, mais la fin de la lettre manque et l'événement est complètement oublié. Je ne puis savoir de quoi il était question. 1000 préjugés nous assiégeaient. Le monde et les hommes nous étaient totalement inconnus. Mais aussi quelle chaleur dans notre commerce, quelle liaison intime, quelle confiance sans bornes. Nous étions heureux par nos erreurs. Et maintenant, oh, ce n'est plus cela, il nous a fallu lire comme les autres dans le cœur humain, et la vérité, tombant au milieu de nous comme une bombe, a détruit pour toujours le palais enchanté de l'illusion. Chapitre 35. Il ne tiendrait qu'à moi de faire un chapitre sur cette rose sèche que voilà, si le sujet en valait la peine. C'est une fleur du carnaval de l'année dernière. J'allais moi-même l'accueillir dans les serres du Valentin, et le soir, une heure avant le bal, plein d'espérance et dans une agréable émotion, j'allais la présenter à Madame de Haut-Castel. Elle la prit, la posa sur sa toilette sans la regarder, et sans me regarder moi-même. Mais comment aurait-elle fait attention à moi? Elle était occupée à se regarder elle-même. Debout devant un grand miroir, toute coiffée, elle mettait la dernière main à sa parure. Elle était si fort préoccupée, son attention était si totalement absorbée par des rubans, des gaz et des pompons de toute espèce amoncelés devant elle, que je n'obtins pas même un regard, un signe. Je me résignais, je tenais humblement des épingles toutes prêtes, arrangées dans ma main. Mais son carreau se trouvait plus à sa portée, elle les prenait à son carreau. Et si j'avançais la main, elle les prenait de ma main, différemment. Et pour les prendre, elle tâtonnait, sans ôter les yeux de son miroir, de crainte de se perdre de vue. Je tins quelque temps un second miroir derrière elle, pour lui faire mieux juger de sa parure, et sa physionomie se répétant d'un miroir à l'autre, je vis alors une perspective de coquette dont aucune ne faisait attention à moi, une fort triste figure. Je finis par perdre patience, et ne pouvant plus résister au dépit qui me dévorait, je posai le miroir que je tenais à la main, et je sortis d'un air de colère, et sans prendre congé. « Vous en allez-vous ?» me dit-elle en se tournant de ce côté pour voir sa taille de profit. Je ne répondis rien, mais j'écoutais quelque temps à la porte pour savoir l'effet qu'allait produire ma brusque sortie. « Ne voyez-vous pas, disait-elle à sa femme de chambre après un instant de silence, ne voyez-vous pas que ce caraco est beaucoup trop large pour ma taille, surtout en bas, et qu'il faut faire une baste avec des épingles ?» Comment et pourquoi cette rose sèche se trouve sur une tablette de mon bureau? C'est ce que je ne dirai certainement pas parce que j'ai déclaré qu'une rose sèche ne mérite pas un chapitre. Remarquez bien, mesdames, que je ne fais aucune réflexion sur l'aventure de la Rose Sèche. Je ne dis point que Madame de Haut-Castel ait bien ou mal fait de me préférer sa parure, ni que j'eusse le droit d'être reçu autrement. Je me garde encore avec plus de soin d'en tirer des conséquences générales sur la réalité, la force et la durée de l'affection des dames pour leurs amis. Je me contente de jeter ce chapitre, puisque c'en est un, de le jeter, dis-je, dans le monde, avec le reste du voyage, sans l'adresser à personne et sans le recommander à personne. Je n'ajouterai qu'un conseil pour vous, messieurs, c'est de vous mettre bien dans l'esprit qu'un jour de bal, votre maîtresse n'est plus à vous. Au moment où la parure commence, l'amant n'est plus qu'un mari, et le bal seul devient l'amant. Tout le monde sait de reste ce que gagne un mari à vouloir se faire aimer par force. Prenez donc votre bal en patience et en riant. Et ne vous faites pas illusion, monsieur. Si l'on vous voit avec plaisir au bal, ce n'est point en votre qualité d'amant, car vous êtes un mari. C'est parce que vous faites partie du bal et que vous êtes par conséquent une fraction de sa nouvelle conquête. Vous êtes une décimale d'amant. Ou bien peut-être c'est parce que vous dansez bien et que vous la ferez briller. Enfin, ce qu'il peut y avoir de plus flatteur pour vous dans le bon accueil qu'elle vous fait, c'est qu'elle espère qu'en déclarant pour son amant un homme de mérite comme vous, elle excitera la jalousie de ses compagnes. Sans cette considération, elle ne vous regarderait seulement pas. Voilà donc qui est entendu. Il faudra vous résigner et attendre que votre rôle du mari soit passé. J'en connais plus d'un qui voudrait en être quitte à si bon marché. Chapitre 36. J'ai promis un dialogue entre mon âme et l'autre, mais il est certains chapitres qui m'échappent, ou plutôt il en est d'autres qui coulent de ma plume malgré moi et qui déroutent mes projets. De ce nombre est celui de ma bibliothèque, que je ferai le plus court possible. Les 42 jours vont finir, et un espace de temps égal ne suffirait pas pour achever la description du riche pays où je voyage si agréablement. Ma bibliothèque, donc, est une composée de romans, puisqu'il faut vous le dire, oui, de romans et de quelques poètes choisis. Comme si je n'avais pas assez de mes mots, je partage encore volontairement ceux de 1000 personnages imaginaires, et je les sens aussi vivement que les miens. Que de larmes n'ai-je pas versées pour cette malheureuse Clarisse et pour l'amant de Charlotte. Mais si je cherche ainsi de feintes affections, je trouve en revanche dans ce monde imaginaire la vertu, la bonté, le désintéressement que je n'ai pas encore trouvé réunis dans le monde réel où j'existe. J'y trouve une femme comme je la désire, sans humeur, sans légèreté, sans détour. Je ne dis rien de la beauté, on peut s'en fier à mon imagination. Je la fais si belle qu'il n'y a rien à redire. Ensuite, fermant le livre qui ne répond plus à mes idées, je la prends par la main et nous parcourons ensemble un pays 1000 fois plus délicieux que celui d'Éden. Quel peintre pourrait représenter le paysage enchanté où j'ai placé la divinité de mon cœur? Et quel poète pourra jamais décrire les sensations vives et variées que j'éprouve dans ces régions enchantées? Combien de fois n'ai-je pas maudit ce Cleveland qui s'embarque à tout instant dans de nouveaux malheurs qu'il pourrait éviter? Je ne puis souffrir ce livre et cet enchaînement de calamités. Mais si je l'ouvre par distraction, il faut que je le dévore jusqu'à la fin. Comment laisser ce pauvre homme chez les Abakis? Que deviendrait-il avec ces sauvages? J'ose encore moins l'abandonner dans l'excursion qu'il fait pour sortir de la captivité. Enfin, J'entre tellement dans ses peines, je m'intéresse si fort à lui et à sa famille infortunée, que l'apparition inattendue des féroces Wintons me fait dresser les cheveux. Une sueur froide me couvre lorsque je lis ce passage, et ma frayeur est aussi vive, aussi réelle, que si je devais être rôti moi-même et mangé par cette canaille. Lorsque j'ai assez pleuré et fait l'amour, je cherche quelques poètes et je pars de nouveau pour un autre monde. Chapitre 37. Depuis l'expédition des Argonautes jusqu'à l'assemblée des notables, depuis le fin fond des enfers jusqu'à la dernière étoile fixe au-delà de la Voie lactée, jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'aux portes du chaos, voilà le vaste champ où je me promène en long et en large et tout à loisir, car le temps ne me manque pas plus que l'espace. C'est là que je transporte mon existence, à la suite d'Homère, de Milton, de Virgile, d'Ossian, etc. Tous les événements qui ont eu lieu entre ces deux époques, tous les pays, tous les mondes et tous les êtres qui ont existé entre ces deux termes, tout cela est à moi. Tout cela m'appartient aussi bien, aussi légitimement que les vaisseaux qui entraient dans le Pirée appartenaient à un certain Athénien. J'aime surtout les poètes qui me transportent dans la plus haute antiquité. La mort de l'ambitieux Agamemnon, les fureurs d'Oreste et toute l'histoire tragique de la famille des Atrées, persécutée par le ciel, m'inspire une terreur que les événements modernes ne sauraient faire naître en moi. Voilà l'urne fatale qui contient les cendres d'Oreste. Qui ne frémirait à cet aspect? Électre, malheureuse sœur, apaise-toi. C'est Oreste lui-même qui apporte l'urne, et ses cendres sont celles de ses ennemis. On ne retrouve plus maintenant de rivages semblables à ceux du Xanthe et du Scamandre. On ne voit plus de plaines comme celles de l'Hespérie ou de l'Arcadie. Où sont aujourd'hui les îles de Lemnos et de Crète? Où est le fameux labyrinthe? Où est le rocher qu'Ariane délaissée arrosait de ses larmes? On ne voit plus de Thésée, encore moins d'Hercule. Les hommes et même les héros d'aujourd'hui sont des pygmées. Lorsque je veux me donner ensuite une scène d'enthousiasme et jouir de toutes les forces de mon imagination, je m'attache hardiment au pli de la robe flottante du sublime aveugle d'Albion, au moment où il s'élance dans le ciel et qu'il ose approcher du trône de l'Éternel. Quelle muse a pu le soutenir à cette hauteur où nul homme avant lui n'avait osé porter ses regards? De l'éblouissant parvis céleste que l'avare Mammon regardait avec ses yeux d'envie, je passe avec horreur dans les vastes cavernes du séjour de Satan. J'assiste au conseil infernal, je me mêle à la foule des esprits rebelles et j'écoute leurs discours. Mais il faut que j'avoue ici une faiblesse que je me suis souvent reprochée. Je ne puis m'empêcher de prendre un certain intérêt à ce pauvre Satan, je parle du Satan de Milton, depuis qu'il est ainsi précipité du ciel. Tout en blâmant l'opiniâtreté de l'esprit rebelle, j'avoue que la fermeté qu'il montre dans l'excès du malheur et la grandeur de son courage me forcent à l'admiration malgré moi. Quoique je n'ignore pas les malheurs dérivés de la funeste entreprise qui le conduisit à forcer les portes des enfers pour venir troubler le ménage de nos premiers parents, je ne puis, quoi que je fasse, souhaiter un moment de le voir périr en chemin dans la confusion du chaos. Je crois même que je l'aiderai volontiers sans la honte qui me retient. Je suis tous ses mouvements et je trouve autant de plaisir à voyager avec lui que si j'étais en bonne compagnie. J'ai beau réfléchir qu'après tout c'est un diable, qu'il est en chemin pour perdre le genre humain, que c'est un vrai démocrate, non de ceux d'Athènes, mais de pays, tout cela ne peut me guérir de ma prévention. Quel vaste projet! et quelle hardiesse dans l'exécution. Lorsque les spacieuses et triples portes des enfers s'ouvrirent tout à coup devant lui à deux battants, et que la profonde fosse du néant et de la nuit parut à ses pieds dans toute son horreur, il parcourut d'un œil intrépide le sombre empire du chaos et, sans hésiter, ouvrant ses larges ailes qui auraient pu couvrir une armée entière, il se précipita dans l'abîme. Je le donne en quatre plus hardis, et c'est, selon moi, un des beaux efforts de l'imagination, comme un des plus beaux voyages qui aient jamais été faits après le voyage autour de ma chambre.